l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Sylvie Achard d'Enfants du Mékong et nous devions vous parler d'un événement, je peux dire, qui s'appelle Défi du Mékong et qui devait se dérouler dans les bois de Clapier dimanche 18 mars. Malheureusement, Marie-Sylvie va vous le dire, ceci est annulé.
Oui, bonjour chers auditeurs. Effectivement, vu la neige qui est tombée, les bois de Clapier sont dans un état un peu catastrophique qui fait que on n'a même pas 15 jours pour nettoyer les arbres tombés, les branches qui pendent comme des épées de Damoclès au-dessus des 37 kilomètres que nous devons sécurisé pour cette randonnée VTT solidaire qui devait être la troisième que nous organisons. Donc on est désolé, mais néanmoins, on a toujours le projet à
oui,
financer.
Oui, c'était le projet de reconstruction du toit du foyer de Baksan au Laos.
Ah non, celui-là, il est financé. Donc nous avons justement un autre projet qu'on a décidé de financer qui, lui, se trouve pas au Laos, mais en Birmanie.
Voilà, donc ce projet va se faire de toute façon, il est financé par d'autres groupes.
Voilà, puisque nous sommes regroupés dans toute la région sud-est de la France, donc de l'Hérault jusqu'à Nice, avec tous les départements qui sont traversés, pas tous interviennent, mais on fait tous des manifestations dans tous ces départements-là pour financer les programmes, les projets de développement que l'on choisit ensemble de mener à leur terme. Donc celui qui était au Laos est maintenant financé. Donc on a choisi un nouveau qui se trouve en Birmanie. Donc en Birmanie pour un état, l'état Va. Oui, parce que c'est effectivement en Birmanie, il y a de nombreuses ethnies minoritaires.
Oui. Voilà,
que ce soit les Chan qui sont 11%, les Karen 7%, puis plein d'autres petites ethnies que l'on ne connaît pas forcément, les Chin, les Mon, les Kachin, les Kaya, les Va, les Rohingyas, les Chinois, les Indiens, les Tamouls, enfin qui sont des
Rohingyas, on en a beaucoup parlé récemment.
Effectivement,
voilà.
Oui. Mais les Rohingyas se trouvent plutôt de l'autre côté dans le côté ouest de la Birmanie, alors que nous, comme on intervient dans l'est, puisqu'on est près de la frontière du Laos et de la Thaïlande, donc c'est plutôt les autres ethnies dont nous occupons. Et là, effectivement, c'est l'ethnie Va. Donc c'est un foyer, là, c'est un foyer qui a été créé par le père Bosco, qui est lui-même un Va, qui est originaire donc de cette zone, et qui monte ce foyer pour accueillir donc des enfants et leur donner une chance d'aller à l'école.
Parce que c'est une région isolée.
C'est une région montagneuse au nord-est donc de la Birmanie, et les enfants n'ont pas d'école, ni de collège, ni de lycée. Donc, il a regroupé un ensemble d'une soixantaine de jeunes qui viennent de toutes les montagnes autour, et de 6 ans à 18 ans. Voilà, donc il a créé cet accueil. Et actuellement, il n'y a pas de réfectoire. Il y a simplement un ensemble pour les recueillir tous. Donc, pour le réfectoire, il utilise un abri qui est réservé pour le bois de chauffage. Et donc, et dans cet abri, actuellement, il fait manger les enfants, une soixantaine d'enfants. Donc, il met des toiles pour parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... Donc, il les recueille là-dedans tous. Et puis, même le soir, il les garde pour les faire travailler le soir. Mais on ne peut pas regrouper ensemble des enfants de 6 ans à 18 ans. C'est pas la même...
Oui, pour faire leur devoir.
Pour faire leur devoir, voilà. Mmh. Donc, il y a les enfants qu'on doit beaucoup plus s'occuper des tout-petits, qui font du bruit et qui gênent ceux qui approchent du lycée. Donc, c'est pas très bien. Donc, c'est pour ça qu'il veut aménager cet abri en réfectoire. Donc, c'est nous qui allons financer donc, la création de ce réfectoire à la place de l'abri du bois.
Voilà, et qui servira aussi de salle
d'études le soir. Et ce qui permettra d'avoir deux emplacements pour l'étude, un pour les petits et un pour les plus grands.
Alors ce financement
Ce financement revient à 12 324 $ et c'est à peu près la même chose en euros, je vois. Voilà. Donc, ce financement donc est créé là-bas avec des sur place. Hein, c'est des personnes. C'est une main d'œuvre locale qui va créer ces
locaux. Ça va donner du travail, voilà, aux gens de la montagne.
Voilà, et avec du bois et des matériaux locaux aussi. Voilà. Donc cette ethnie, c'est une ethnie effectivement qui vit de la culture de la riz, du riz des montagnes, mais c'est aussi une zone où malheureusement ils cultivent l'opium. Donc c'est important de scolariser les enfants pour leur apprendre
autre chose,
voilà,
que la culture de l'opium. Alors ça touche une soixantaine d'enfants.
D'enfants actuellement, voilà. Mais bon, c'est sûr que le responsable de cet accueil, il voudrait que ça se développe peut-être à beaucoup plus d'enfants dans la région. Et là, c'est un départ, voilà.
Donc, vous avez un projet, c'est celui d'aider
ce père Bosco qui se trouve donc là-bas, qui est un jeune originaire donc de l'Etniva. Et donc, nous sommes, pour financer ce programme, en fait, on n'est pas seul dans le département, on n'est pas le seul département, puisque on est enfant du Mékong nous a découpé en plusieurs régions. Oui. Et nous, on fait partie de la région du Sud-Est, où on est plusieurs départements à créer des événements pour financer les programmes de développement que nous choisissons.
Alors, quels seront les événements, justement?
Alors, bon, c'est sûr que nous, dans les autres départements, on a une personne qui fait des soirées, qui fait du théâtre, donc qui fait des soirées privées où elle joue sa pièce de théâtre. On a bien sûr nos repas d'amis, il va y en avoir au mois de juin. Et puis nous, bien sûr, on va également, comme chaque année, participer aux événements sportifs de la région de Montpellier, en particulier au triathlon du Salagou, où chaque fois on fournit des bénévoles. Et l'argent qu'on nous donne en tant que bénévole va bien sûr pour financer ces programmes. Et puis comme l'association également va fêter ses 60 ans cette année, le 8 juin, on organise un concert dans la grotte des Demoiselles. Voilà.
Ah, en effet. Donc, voilà. On reparlera de tous ces événements.
Bien sûr,
mais c'est bon de savoir déjà.
Voilà, que c'est le 8 juin, parce que souvent, les gens programment, on a des amis à Clapiers, le 8 juin, déjà, ils ont prévu autre chose. Donc, il faut que tout le monde sache à l'avance ce qui va se passer.
Très bien. Alors, vous avez apporté de la musique. De quoi s'agit-il?
Oui, bon, comme toujours, moi, j'aime bien la musique vietnamienne, bien qu'on intervienne en Birmanie, au Laos, au Cambodge, etc., parce que c'est une musique qui est agréable à entendre. Voilà.
Écoutons. Thank you. Alors, je rappelle que je suis avec Enfants du Mékong, avec Marie-Sylvie Achard, et que nous faisons part des projets de cette association qui va fêter ses 60 ans cette année.
Voilà, qui fête ses 60 ans cette année, c'est quand même un bel âge hein, pour une association. Ça montre que le sérieux est reconnu, que ça avance et que les jeunes font de belles choses dans notre association.
Et oui, les volontaires bambous, notamment.
Voilà, notamment les volontaires bambous. On voit vraiment leur rôle important quand, justement, on a un programme de développement à financer. Ce sont eux qui sont sur place, qui vont voir la demande du local, enfin des responsables locaux, et qui vont mettre sur place ce projet, qui l'envoient à Paris, à Asnières, pour voir s'il est bien ficelé, quoi, comment dire. Après, bon, qui vont suivre ce projet une fois qu'il est financé, puis qui nous donnent le retour à chaque fois, donc, de tout ce qui a été fait et dans quelles conditions.
Actuellement, vous en avez combien de volontaires bambou?
Alors, on en a une cinquantaine, voilà.
Oui, c'est important.
Oui. Et puis, vraiment, sur place, ils font un travail extraordinaire.
Donc, vous avez un site où on peut se renseigner,
oui,
pour s'inscrire?
Oui, sur le site, on voit, effectivement, puisqu'on recrute, mais c'est vrai qu'on a toujours entre 200 et 300 jeunes qui demandent à partir. Hein. Et bien sûr, ils suivent des entretiens, parce que comme ils partent pour 13 mois, il ne s'agit pas qu'au bout de 2 mois, ils disent « j'ai fait le tour de la question et je veux m'en aller ». Parce que c'est sûr qu'ils ont souvent ils sont soumis à rude épreuve, hein, parce que il y a eu les typhons, c'est pas des zones faciles où on intervient. Quand on intervient en Birmanie chez les Karen, c'est des zones sensibles. Donc il faut qu'ils psychologiquement ils soient armés,
oui.
Voilà. Mais sur le plan, on leur demande pas un diplôme particulier, hein, c'est justement la personnalité du volontaire que l'on juge. Voilà, donc je vais également vous parler justement d'un retour de tous ces jeunes que nous avons suivis depuis le début. Là, c'est au Cambodge. Donc, on a une étudiante qui est venue à Montpellier l'année dernière, Ravan, et qui nous a offert le livre témoignage qui a été réalisé, donc, à Phnom Penh, par un étudiant qui s'appelle Bourpania. Donc, ce livre, on l'a trouvé tellement bouleversant qu'on a demandé donc à une entreprise de Montpellier, JF Impression, de nous l'imprimer pour qu'on puisse le divulguer. Donc, on en a demandé au départ 1000 exemplaires. Donc, toute la France région donc va avoir son lot de livres. Nous, on en a déjà réservé une centaine pour Montpellier. Et ce livre vraiment est intéressant parce que il montre la vie.
Quel est son titre?
Alors, son titre, c'est « J'ai un rêve ».
J'ai un rêve.
Voilà. Donc, c'est le témoignage des étudiants du centre de Phnom Penh, du centre Christophe Mérieux. Alors, Bourpania, donc, c'est celui qui m'a effectivement le plus bouleversé. D'ailleurs, vous pouvez le voir, tous les gens peuvent avoir sur YouTube son témoignage. Son témoignage devant un parterre d'ingénieurs. Ce témoignage s'appelle « Le mendiant devenu ingénieur ». Donc, c'est le témoignage de Bourpania. Je pense que son prénom, c'est Pania, et Bour, c'est son nom de famille. Bon, je peux vous lire quelques passages vraiment bouleversants de ce jeune qui est né dans les camps de réfugiés au moment des Khmer Rouges, donc à la frontière khmero-thaïlandaise. Donc, il a vécu dans les camps et il ne savait pas s'il était cambodgien. Pour lui, il ne savait pas. La seule chose pour lui qui importait, c'était de manger, dormir et jouer comme tout enfant. Puis après, donc, à la fin des Khmer Rouges, donc, ses parents sont retournés, lui et sa famille sont retournés au Cambodge. Et c'est là que toute la violence que la famille a vécue dans ces camps, le camp Site 2, à la frontière, s'est retrouvé enfoui et s'est révélé. C'est son père qui a eu une violence envers ses enfants, sa femme qui est insupportable. Hein. Il le dit, « Mon enfance ne fut que peur et souffrance. Mon père me frappait avec tout ce qui lui tombait sous la main, une corde, une ceinture, un bâton. » Un jour où j'avais failli me noyer dans la rivière, mon père me roua de coups pour mon imprudence. Quand je n'obéissais pas, il m'attachait à un arbre ou à un pilotis et attendait que les fourmis rouges recouvrent tout mon corps. Je hurlais sous cette torture. Il finit par frapper ma mère si fort à la tête qu'elle nous emmena, mon grand frère, ma petite sœur et moi, dans son village natal. À vélo, ayant pour seul bagage un coq, mon père fit un trajet de plus de 400 km pour nous ramener et nous sommes rentrés. Il décrit la violence de son père. Puis son père est tombé malade, je ne sais plus de quoi, des poumons là. Donc il est tombé gravement malade, donc il a voulu se faire soigner à Siem Reap, qui est au nord du Cambodge. Donc là, de nouveau, ils sont tous partis à pied, plus de 100 km à pied. Donc, il raconte qu'il faisait, il mendiait de l'argent, il mendiait du riz plutôt que de... Parce que son père lui disait, il vaut mieux faire la manche plutôt que voler. Donc, c'est là que vraiment, on voit comment ils ont survécu pour aller à Siem Reap. Puis, ils ont erré dans le Cambodge jusqu'à ce qu'ils arrivent à Bantéchmar. Donc là, en Bantéchmar, on arrive à comment il a été... recueilli par Enfants du Mékong, parce qu'en 2001, c'est là qu'a été créé le centre de soierie de Bantéchmar, dont on a parlé souvent, par Enfants du Mékong. Donc, sa mère a rejoint donc, le centre de soierie du Mékong. C'est là qu'il a fait la connaissance, justement, avec nos volontaires bambous de l'époque, Grégoire, FX et Amélie, qui étaient donc au foyer de Sisopone qu'on a créé dans la région. Et là, il a été recueilli dans ce foyer et à partir de là, il décrit ce qu'il appelle les sentiers du bonheur, où il a pu travailler, étudier, apprendre l'alphabet, parce que bien sûr, l'alphabet khmer n'est pas le même que l'alphabet étranger, l'alphabet de chez nous, je veux dire.
En latin.
Oui, latin, voilà. Donc, c'est impressionnant de voir le parcours intellectuel de ce jeune qui, de mendiant, justement, est arrivé à sortir parmi les meilleurs du foyer de Sisopone, qui est donc au nord-ouest du Cambodge, et être choisi pour aller décrocher son bac et avoir une bourse enfant du Mékong pour continuer ses études au centre étudiant donc, qui se trouve à Phnom Penh. Et là, maintenant, il a décroché son diplôme d'ingénieur à l'Institut de technologie du Cambodge en génie rural. Donc, il témoigne, et dans le YouTube, vous le voyez, témoigner de ce qu'il appelle pour lui la chance. J'ai de la chance, ma famille a de la chance, le Cambodge a de la chance. C'est impressionnant de voir un jeune qui a vécu une vie aussi bouleversante dire qu'il a de la chance. Parce que nous, on voit combien chez nous, souvent, les jeunes se plaignent.
Ah oui.
Donc, je trouve que ce livre de témoignage, et il n'est pas le seul, peut être un livre qui peut être lu par des jeunes, que ce soit au lycée, que ce soit même en début de fac, pour que les jeunes, nos jeunes, voient qu'est-ce que
voient
c'est.
Voient leur chance.
Voilà, quelle est leur chance. Voilà. Et comment c'est d'autres jeunes qui n'ont pas eu tout ce que... La vie, somme toute, quand même facile, relativement facile. Bon, c'est vrai que tout le monde n'est pas égal dans notre société, mais quand même, ils n'ont pas vécu les malheurs,
les traumatismes de ce genre, oui.
de ce genre qu'ont vécu tous ces jeunes-là et qui s'en sortent.
Voilà, brillamment,
voilà. Oui, brillamment, puisque là, c'est le témoignage, je ne sais plus combien, c'est une quinzaine ou une vingtaine des étudiants qui ont fait ce livre. Non, 33 témoignages. 33.
Alors, ce livre est vendu par vous?
Alors, c'est nous qui en avons plusieurs exemplaires, puisque c'est GF Impression de Montpellier qui nous l'a imprimé, puisqu'il n'était pas imprimé en France. Et on l'a donc distribué un petit peu partout. Et nous, on en a une centaine d'exemplaires ici dans la région. Et il vaut 5 euros.
5 euros.
Voilà. C'est un livre de 200 pages. 204 pages. de 33 témoignages de tous ces jeunes de là-bas.
33 témoignages.
33 témoignages, oui. J'ai un rêve.
Alors, ce « j'ai un rêve », donc, on peut vous le demander à quel
Alors, ben, nous, notre site internet, c'est délégation34@enfantsdumekong.com.
On peut vous joindre par téléphone aussi.
Enfant au pluriel, hein. Enfants du Mékong, puisqu'on est de près de 60 000 enfants, donc ils ont bien le droit à un pluriel. Voilà, on peut nous joindre au téléphone au 06 60 14... j'ai un trouble. 58 02.
06 74 58 02.
Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. C'est le numéro de téléphone de mon mari. Je ne sais plus si c'est 74 ou 72. Je crois que c'est 72.
72.
Non, 60.
Ah, 60.
Et puis plus loin, 12, 58 02.
Ah, d'accord. Alors, 06
72.
12.
58
02.
Oui,
voilà.
Je suis un petit peu fâchée
avec Marie-Sylvie. Eh ben, nous allons écouter la musique que vous avez apportée, musique vietnamienne toujours.
Voilà.
Eh bien, tout de suite, je passe au calendrier pour cette semaine, qui est assez abondant déjà, puisque dès ce soir, lundi 5 mars, à 20h25, au cinéma Diagonale, est projeté le film « Les Sentinelles », qui est un film de Pierre Pezra, dans le cadre du festival « Au cinéma pour les droits humains », qui est organisé par Amnesty International et de nombreuses associations, dont le groupe Oxfam 34. Alors c'est un film, donc le débat aura lieu avec le réalisateur Pierre Pezra et Nandia Gonzague, photographe, et il sera animé par Christine Viala d'Amnesty International. Le mardi 6, donc demain à 16h, aura lieu la visite guidée de l'exposition Aurès 1935, Thérèse Rivière et Germaine Tillon au pavillon populaire sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et c'est organisé par Coup de Soleil, avec Christian Féline qui est le commissaire de l'exposition. Cette visite sera suivie d'une rencontre de 18 à 20 heures dans la salle Jean Vigo de la médiathèque Federico Fellini, en présence toujours du commissaire de l'exposition Christian Féline, de Nelly Forger, qui fut assistante de Germaine Tillon à la création des centres sociaux en Algérie, et de Nancy Wood, qui a découvert les photos de Germaine Tillon, qui sont exposées justement au pavillon, et également en présence de François Gauduchot, qui est le réalisateur du film « Les images oubliées » de Germaine Tillon. Également avec Mathilde Lataillade du Musée de l'Homme. C'est Coup de Soleil qui nous invite donc à cette visite commentée. Samedi 10 mars, je rappelle la session de formation de 10h à 16h30 qui a lieu à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, sur les outils pédagogiques de l'appel, Ballet Santé et NutriCart. Les formatrices sont le docteur Joël Nicolas, qui est pédiatre, infectiologue Hélène Duquesne, médecin nutritionniste, et Stella Texier, médecin généraliste, donc trois docteurs qui font cette formation. Le programme, le matin, est sur l'impact des maladies infectieuses et de la malnutrition sur la mortalité infantile, les principales maladies, les symptômes, les causes, la prévention, puis la présentation des outils pédagogiques de l'appel. Le repas suit, et ensuite l'après-midi, de 13h30 à 16h30, des ateliers pratiques avec le jeu Balai Santé, puis échange sur les projets où Balai Santé sera utilisé. C'est organisé, bien sûr, par l'appel et le Centre Documentation Tiers-Monde. Donc, vous pouvez vous adresser au Centre Documentation Tiers-Monde pour vous inscrire, si ce n'est déjà fait. Mardi 13 mars, à la Brasserie Le Dôme, aura lieu une conférence « L'enseignement de la langue arabe dans le secondaire » par Dabia Foudili, professeur certifié, et c'est également organisé par Coup de Soleil. Je rappelle aussi la braderie d'espoir pour un enfant qui aura lieu vendredi 9 et samedi 10 mars de 9h à 18h en continu à la salle des Granges à Saint-Jean-de-Védas. Vous y trouverez comme d'habitude de nombreux objets, aussi bien des vêtements adultes et enfants que des livres, que des bibelots. Et donc, je rappelle que l'espoir pour un enfant fait soigner des enfants qui ne peuvent pas avoir les soins réclamés par leur état de santé dans leur pays, ici à Montpellier, avec accueil dans des familles qui s'occupent de ces enfants tout le long de leur séjour à l'hôpital. Il y a également à annoncer un calendrier régional, puisque le samedi 10 mars, à Villeneuve-les-Avignon, de 9h30 à 16h30, aura lieu la rencontre régionale « Regards croisés, comprendre le partenariat au CCFD Terre solidaire » avec trois organisations partenaires, ABCDS qui est du Maroc, Rencontre et Développement d'Algérie et ACSOAR du Brésil. L'inscription est nécessaire, donc vous pouvez vous adresser au 06 73 32 10 75. Je rappelle aussi dans le calendrier régional que le vendredi 16 mars aura lieu une journée d'information sur l'appel à projet Aide au co-développement international de la région Occitanie en faveur des associations de solidarité internationale. Cette rencontre aura lieu à Montpellier et à Toulouse, nous en reparlerons. Vous pouvez déjà vous renseigner en tant qu'association de solidarité internationale si vous voulez profiter justement de cet appel à projet au 05 32 26 26 73. À l'invitation de nos partenaires, eh bien dès ce soir, lundi 5 mars, à la salle du Devezou à Montferrier-sur-Lesse, à 18h30, a lieu la conférence du professeur Francis Allais sur la journée de l'arbre. À l'issue de la conférence, il dédicacera ses ouvrages. C'est suivi d'un verre de l'amitié et organisé par l'association Non au béton. Enfin, jeudi 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. À Montpellier, à 14h30, a lieu un rassemblement devant l'Office du tourisme, place de la Comédie. À 15h, le départ en cortège pour la préfecture et à 15h40, l'audience en préfecture. À 17h, c'est un autre rassemblement, place de la Comédie, à l'appel de Oser le féminisme 34. Et à 20h, devant le Pérou, aura lieu la marche de nuit non mixte, dont le contact est marche de nuit non mixte, tout se tient, hein, 34@gmail.com. Alors lundi 12 mars, j'annonce déjà, de 14h30 à 16h30 à l'amphi Louis Malassi, Agropolis International, 100 avenue Agropolis, la conférence débat autour de l'ouvrage Afrique, Méditerranée, Europe, la verticale de l'avenir. L'ouverture a lieu par le président d'Agropolis International, Jean-Luc Kalfaoui. Les exposés des auteurs de l'ouvrage, Jean-Louis Guigou, économiste et président de l'IPEMED, Institut de prospective économique du monde méditerranéen, et Pierre Becouche, professeur des universités, spécialiste de géographie économique, consultant auprès de l'OCDE. Ensuite, il y aura une table ronde, pourquoi et comment renforcer la sécurité alimentaire dans la verticale Afrique-Méditerranée-Europe, avec Jean-François Blanchet, directeur du groupe BRL, Guillaume Cros, vice-président du Conseil régional d'Occitanie, Bernard Hubert, directeur de recherche émérite à l'INRA, président de la Commission pour la recherche internationale, Jean-Louis Rastouin, professeur émérite Montpellier Supagro, et puis des étudiants de Supagro, en débat avec la salle et séance de signature de cet ouvrage. À bientôt, chers auditeurs.
Oui, à bientôt, chers auditeurs également.